Affrontement. Jean Drapeau et Pierre-Elliott Trudeau discutent ce soir de l'Alliance des forces démocratiques. Voici Raymond Laplante, le modérateur.
Bonsoir. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs et des auditeurs. Le sujet annoncé ce soir, eh bien, c'était le budget municipal. Malheureusement, nous nous sommes trouvés devant une surabondance de personnes disposées à l'attaquer. Et ça a été un peu plus difficile de trouver des gens prêts à le défendre. C'est un budget qui aurait été forcé de se défendre tout seul à une émission comme affrontement. Vous admettez que la chose est assez difficile. Donc, ce sont les Montréalais qui devront affronter eux-mêmes leur budget municipal. Nos invités de ce soir ont bien des points en commun. Vous vous demandez comment on peut les faire s'affronter. Eh bien, nous croyons que la chose est possible. D'ailleurs, dans 15 jours, nous aurons deux participants de l'Union nationale qui viendront exposer des idées contraires. Nos invités sont donc M. Pierre-Elliott Trudeau, l'auteur d'un manifeste pour une union démocratique, un groupement des forces de l'opposition, que l'on est forcé de refaire à certains moments dans toute l'histoire démocratique d'un pays, et Maître Jean Drapeau. Je pense que on connaît assez bien les idées des deux participants sur le sujet. Vous avez eu l'occasion de les exposer à plusieurs reprises. Et Maître Trudeau, je voudrais vous demander de nous résumer un peu votre manifeste démocratique afin que nous soyons bien au courant de ce qu'il exprime du point de vue regroupement des forces.
En quelques mots, Monsieur Laplante, c'est une tentative de résoudre le problème politique qui se pose à la province de Québec en partant des données politiques. Les données sont les suivantes, d'après moi. C'est que les réformateurs dans la province de Québec, ceux qui, comme le disait M. Drapeau au Saint-Denis, veulent changer le système, sont en nombre relativement limité, premièrement. Deuxièmement, c'est que ces réformateurs-là sont divisés. Les uns suivent l'action civique, les autres sont dans le PSD. Il y en a à l'aile gauche, comme on l'appelle, du Parti libéral. Ils sont divisés, mais par contre, ils ont un certain nombre de points en commun. Réformer, ils veulent instaurer un régime véritablement démocratique. Alors, à partir de ces données, et à partir de la constatation que jamais un parti va se suicider en faveur d'un parti rival, je suggère que tous ces réformateurs-là, venant de tous ces différents groupements, dont l'Action civique de M. Drapeau, se réunissent, se fusionnent dans un parti nouveau qui aurait une structure véritablement démocratique et qui garantirait que le fonctionnement de ce parti, que son programme, que ses dirigeants seraient choisis suivant des règles strictement démocratiques.
Maître Drapeau, je pense que vous avez exprimé assez souvent l'idée de la nécessité d'un troisième parti. Est-ce que dans ces modalités, il rencontrerait à peu près les idées de M. Trudeau?
Voici, je suis parfaitement d'accord avec M. Trudeau sur la nécessité d'une nouvelle formation politique et qui supprimerait le système dans lequel nous vivons. Je crois qu'il est bon de souligner que ce que M. Trudeau suggère, eh bien, c'est déjà commencé depuis près de 10 ans. En somme, l'action civique est née du besoin d'organiser cette volonté populaire et qui doit tendre à abattre le système. Le point de départ a été une question de moralité publique que l'on a malheureusement limitée en certains milieux à une question de maison de prostitution, de maison de pari ou de maison de jeu, alors que nous nous sommes employés toujours à montrer que la moralité publique, c'était infiniment plus et infiniment mieux que ça. Nous croyons en l'existence d'abord d'un mouvement d'éducation populaire et civique, avec structure démocratique. Mais je ne voudrais pas que mon attitude ou les opinions que j'ai émises dans ma conférence du Saint-Denis puissent être interprétées comme s'opposant à une union ou à une alliance démocratique parce que démocratique. Au contraire, l'action civique est un mouvement à structure démocratique qui ne doit pas être confondu avec un parti parce que ce n'est pas un parti politique. C'est une association de citoyens et qui va continuer à perfectionner ses cadres démocratiques pour jouer le rôle, justement, de cette union que M. Trudeau souhaite. Et là encore, je suis d'accord avec lui, mais je dis déjà, c'est en existence depuis 10 ans, et il faut la perfectionner.
Je crois, M. Laplante, qu'on est déjà rendu au cœur du débat. M. Drapeau vient d'illustrer ce que j'appelle une des données fondamentales de notre problème politique. Il croit, et je respecte son opinion, il croit que l'action civique est ce mouvement nouveau qui peut changer le système, n'est-ce pas?
Oui.
Il existe depuis 10 ans, comme vous dites. Or, la donnée, c'est que si M. Drapeau croit ça, beaucoup de gens ne le croient pas. Ils ont peut-être tort, mais de leur point de vue, ceux qui sont dans le PSD, par exemple, disent, eh bien, nous aussi, notre mouvement qui veut changer le système existe depuis plus que 10 ans, il existe depuis 25 ans. Entrez chez nous et nous allons réformer le système. Et les libéraux, je ne parle pas de ce qu'on appelle la vieille garde, mais les jeunes, ceux qui essaient de militer dans la fédération libérale et y donner des cadres démocratiques. Ces gens disent exactement comme M. Drapeau, depuis 1950 et plus précisément depuis 1955, nous essayons, nous formons une opposition réelle au vieux système, nous démocratisons le Parti libéral, entrez chez nous et nous serons forts. Tous disent ça, M. Drapeau de son côté, les libéraux du leur, les PSD du leur. Alors c'est ça la chose donnée. Puis c'est inutile que M. Drapeau ou les gens d'Action civique s'imaginent que parce que eux sont de bonne foi, ils vont convaincre les gens de suicider leur parti et de venir à la suite de M. Drapeau. Chacun dit, venez à ma suite, on fera nombre et on sera assez pour renverser le système. Moi je dis, puisque tous disent ça, et que jamais un parti se convertira en bloc à un parti rival, je dis, formons un parti nouveau, qui ne sera pas contre l'action civique, ni contre les libéraux, ni contre les éléments réformistes du Parti libéral, ni contre le PSD, mais un groupement nouveau qui prendra tous ces gens-là et dira, ben, formons ensemble un parti démocratique, choisissons le programme qui sera voulu par le plus grand nombre, choisissons le chef et les dirigeants qui seront élus par les plus grands nombres, et nous aurons ce parti nouveau. C'est ça la chose donnée, et c'est en la niant que tous ceux qui sont dans un parti et qui prêchent la réforme empêchent cette réforme de se réaliser, parce que leur division dans notre système électoral, uninominal à un tour, leur division amène inévitablement une faiblesse devant le parti gouvernemental. Alors, je dis à M. Drapeau, il a raison de croire à la réforme, mais tous les autres y croient aussi.
Donc, selon votre idée, des forces d'opposition divisées sont nécessairement faibles. Est-ce votre avis, M. Drapeau?
Voici. M. Trudeau confond l'action civique avec des partis. Dans le Parti libéral, il y a l'aile réformiste, mais c'est quand même des membres d'un parti. Et le PSD est un parti. C'est précisément devant l'impuissance de ces deux tentatives, divisées ou réunies, elles ne signifieraient pas tellement plus, que l'action civique a cru, à la demande de plusieurs citoyens à travers la province, devoir étendre son action politique, dans le domaine de l'éducation populaire d'abord, à l'ensemble de la province, pour que finalement, plus de citoyens, étant convaincus de la nécessité de s'intéresser à la chose publique d'abord et en dehors des partis, grossissent les rangs de l'action civique, portent une attention meilleure, mieux informée aux questions publiques, et si ces membres, réunis en assemblée régulière, viennent à cette conclusion que vraiment, dans les formations politiques actuelles, il n'y a pas moyen d'espérer que par elles, on va arriver au renouveau politique par des structures démocratiques, mais arriver au renouveau politique que le peuple souhaite, bien, ce peuple qui se sera enrôlé dans les rangs de l'action civique pourra un jour dire, non, vraiment, il faut fonder un parti. Mais tant que l'action civique n'est pas un parti, elle reste un mouvement d'éducation civique avec structure démocratique. Et plus les gens voudront en faire un parti, plus ils doivent rentrer. Si des gens veulent que l'action civique soit et reste toujours un mouvement d'éducation démocratique, politique, populaire, civique, eh bien, que les gens y entrent et qu'ils fassent valoir ce point de vue-là. Parce qu'encore une fois, l'action civique tient ses réunions, elle a ses rencontres provinciales. Il n'y a aucun doute que sa structure, sa constitution, tout ça, c'est accepté par ses membres.
Mais de la minute où ses membres ont décidé de concrétiser leur action, qui a été jusque-là démocratique du point de vue éducation, en action politique, et qu'ils décident de fonder, disons, un parti tout neuf, est-ce que des forces de l'opposition qui ne veulent pas abandonner leur parti, comme le disait M. Trudeau, ne seront pas nécessairement mises de côté sans être contre vous? Elles ne seront pas pour vous.
Voici, je crois, moi, qu'il faut être très réaliste et prendre les partis politiques tels qu'ils sont, et même les ailes réformistes de ces partis-là, tels qu'ils sont. J'entendais justement, il y a quelques mois, M. Guy Mollet, dans une interview télévisée, dire justement qu'en France, il y avait beaucoup de partis politiques, mais à l'intérieur de chaque parti, il y avait tout un éventail de tendances. C'est la même chose chez nous. Et alors, des gens qui sont réformistes à l'intérieur du Parti libéral, bien, ne voudront pas laisser leur parti. Ils vont quand même avoir confiance de pouvoir améliorer leur parti de l'intérieur. Et dans le parti CCF, le PSD, la même chose, des gens vont croire qu'il sera possible de faire accepter un jour l'idée de la souveraineté des provinces au parti PSD, et comme étant un élément important si on veut que le PSD fasse du progrès dans la province. Et en conséquence, je crois que c'est manquer de réalisme, même si l'idée est très belle, si c'est un idéal souhaitable, je crois qu'il faut travailler en prenant la mesure de notre population, de ses tendances, de ses habitudes, de ses traditions politiques, et réaliser que vraiment, même si c'est déplorable, il n'y a pas d'autre formule. Il va falloir qu'à un moment donné, un mouvement d'éducation populaire s'étende à la masse et que le peuple se donne ce parti auquel il aspire peut-être sans le savoir.
Est-ce que je vous comprends bien quand vous dites que le Parti libéral, même les réformistes dans ce parti, et le PSD refuserait une formule d'alliance ou de fusion démocratique
qui entraînerait la suppression de leur parti, mais certainement.
Bon, alors si vous croyez ça, M. Drapeau, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que vous êtes prêt, vous, à l'union des forces démocratiques dans une alliance nouvelle? Et pourquoi est-ce que vous ne donnez pas le fardeau de la preuve aux libéraux de dire, ben nous, on ne veut pas supprimer notre parti en faveur de nouvelles choses? Parce que jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, il y a le Parti libéral qui a la Fédération libérale qui a son congrès de novembre, a adopté à l'unanimité une résolution disant qu'ils étaient prêts à considérer la formule d'union démocratique. Et en interview après, M. Jean-Louis Gagnon, le proposeur de la résolution, a dit que ça comprenait une union même en dehors du Parti libéral. Jusque maintenant, on peut croire que le Parti libéral est prêt, n'est-ce pas, à considérer la formation d'un parti nouveau. Même en dehors du Parti libéral. On sait aussi que le PSD, depuis la résolution de Winnipeg et celle de l'été dernier, on sait que le PSD cherche à se transformer en un parti nouveau où il irait chercher les « liberal-minded persons », suivant les termes de sa résolution. Vous êtes le seul, M. Drapeau, à avoir dit que jamais vous feriez marchand d'illusions et que jamais vous entreriez dans une fusion ou dans une union démocratique.
Ah non.
Pardon, laissez-moi finir mon raisonnement. Ensuite, vous me direz si je me trompe. Oui. Vous êtes le seul jusqu'à maintenant à avoir dit ça, à mon avis. Mais pourquoi ne dites-vous pas carrément, moi, je suis prêt à engager l'action civique ou à inviter l'action civique à entrer dans une formation nouvelle parfaitement démocratique? Et alors, ce serait à M. Lesage ou à M. Chartrand de dire pour leur parti, « Oh ben nous, on n'est pas pour euthanasier notre parti pour entrer dans une affaire nouvelle. » Pour le moment, on croit que c'est vous, n'est-ce pas, qui refusez cette formule-là, et le Parti libéral, qui, Dieu sait, aurait bien des raisons de craindre de se mettre lâche dans son propre parti, lui, on a l'impression qu'il serait prêt à considérer cette alternative.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a eu un autre vieux parti qui a été prêt et qui même a exécuté, si vous voulez, a réalisé une alliance des forces démocratiques, des forces d'opposition en 1935. Et on sait comment ça a tourné.
Non, justement,
dans ces alliances-là, finalement, il y a toujours un parti qui absorbe les autres. Et c'est généralement le plus rusé, le plus filou, le plus argenté, le mieux financé. Et alors, les bons mouvements du début disparaissent. Je suis bien sûr, par ailleurs, que le Parti libéral compte des membres qui souhaiteraient que cette fusion, que cette alliance, que cette union des forces d'opposition se fasse en toute honnêteté. Mais je sais bien également que les véritables propriétaires du Parti libéral garderaient le contrôle de ça. Et à cause de la structure même des vieilles formations politiques, à cause d'une foule d'éléments qui jouent tout à coup, on se trouve paralysé. D'ailleurs, cette déclaration de sympathie quant aux idées, aux aspirations que l'action civique peut entretenir, et cette communauté qu'on accorde au Parti libéral, comment se fait-il que chaque fois que l'on se croit en mesure de trouver une circonstance où vraiment le Parti libéral pourrait donner signe de sa bonne foi, eh bien, au lieu de donner signe de sa bonne foi et de sa tendance à un rapprochement des forces démocratiques d'opposition, c'est le contraire, c'est toujours un regroupement des forces des vieux partis contre ce qu'il y a de nouveau.
Monsieur Drapeau, je pense que vous attendez pas à ce que je me fasse le défenseur du Parti libéral.
Mais tout de même, puisque vous avez une certaine confiance dans le fait que le Parti libéral pourrait travailler de bonne foi à un tel regroupement, je dis, il ne faut pas oublier qu'au conseil municipal, par exemple, des conseillers libéraux ont voté à l'unanimité pour un gars comme Jean-Marie Berriot, qui est l'exécuteur des hautes et des basses œuvres de l'Union nationale, pour lui donner un siège au conseil. Seuls les membres de l'Action civique ont voté contre.
Je pourrais me joindre à vous pour faire le procès du Parti libéral, mais dans la question qui nous occupe, le Parti libéral a dit qu'il était prêt à concilier même proposer une résolution en faveur de l'union des forces démocratiques. Vous avez peur que se recrée l'aventure de 35. Justement, c'est à vous, à votre groupement et aux autres de négocier d'une façon à ce que ça ne se recrée pas. Si dans la négociation qui s'engagerait en faveur de l'union des forces démocratiques, il s'avérerait que le Parti libéral craindrait précisément pour que la puissance financière garde son autorité, que le Parti libéral redouterait de s'engager dans une structure parfaitement démocratique, n'est-ce pas, où un membre aurait un vote et où tous les délégués seront choisis dans un comté par ceux qui auront pris une carte de membre dans ce nouveau parti. Si le Parti libéral, autour de la table de négociation, refuse une telle chose, là on pourrait dire, ah oui, le Parti libéral voudrait absorber les forces, les assimiler et répéter l'aventure de 35. Mais pourquoi avoir peur nécessairement d'avance, avant d'avoir négocié? Pourquoi est-ce que vous avez dit au Saint-Denis, j'attends qu'on me donne des garanties? Est-ce que ce ne serait pas à vous et aux autres chefs de parti d'aller en chercher
j'ai
des
dit,
garanties?
J'ai dit outre qu'il faudrait des garanties d'une véritable révolution pacifique, si vous voulez. J'ai dit, il y a une autre assurance qu'il me faudrait, et celle-là, personne ne peut me la donner, parce que d'abord, je suis convaincu du contraire. J'ai dit, il faudrait cette deuxième assurance que le peuple du Québec marcherait. Il ne faut pas oublier que ceux qui jouent le rôle, disons, de chef de groupe, ne sont pas comme des généraux d'armée. Ils ne peuvent pas se réunir autour d'une table et dire, bien, vous avez tant de divisions blindées, vous avez tant d'engins téléguidés, moi, j'ai tant de sous-marins, nous allons mettre ça ensemble. Et puis nous allons aller voir l'autre chef de groupe, l'autre général, qui a également tant de divisions, et puis nous allons nous partager le front. Et là, nous allons donner un bon coup, nous allons l'avoir. Les gens qui font confiance à M. Lesage, par exemple, ne suivront pas nécessairement M. Lesage si M. Lesage leur dit, dans tel cas, votez donc de telle façon. Et les gens qui font confiance à l'Action civique ne voteront pas nécessairement comme les chefs de l'Action civique le demanderaient. Et les gens qui suivent le PSD, la même chose, et les gens qui suivent le Crédit social, la même chose. L'expérience a été faite et refaite chez nous. Et ce n'est pas seulement sur le plan des chefs de groupe politique. Est-ce que les exemples ne sont pas nombreux, par exemple, où les chefs ouvriers ont demandé à leurs membres, ont suggéré à leurs membres, même en pleine grève, alors que des unionistes et des syndicalistes étaient massacrés par la police provinciale, de voter contre l'Union nationale dans tel comté ou dans telle élection municipale. Je me souviens, par exemple, de la grève d'asbestos et de Thetford Mines. En même temps qu'on était devant les tribunaux de Sherbrooke à défendre les gars qui avaient été massacrés là, par la police provinciale, il y avait une élection municipale dans Thetford Mines. Ben, le député de l'Union nationale a été réélu maire de cette ville-là. Okay. Puis à Masquinongé, le maire de Masquinongé de l'Union nationale a été réélu en pleine grève de Masquinongé-Louisville, okay. En dépit des recommandations des chefs.
Qu'est-ce que ça prouve, M. Drapeau? Ça prouve que les citoyens de la province de Québec ne sont pas parfaitement conscients politiquement de leur obligation.
Il faut tenir compte de cette réalité. Bon, les chefs ne disposent pas de la volonté de ceux qui ont confiance.
Et c'est heureux, M. Drapeau, que
oui,
les chefs
alors, ça sert à rien que les chefs se réunissent autour d'une table et disent « Nous fondons une association et à partir de ce moment-là, nous additionnons le nombre de nos membres. »
Justement, c'est l'opération qu'il faudrait éviter. Pas que les chefs se réunissent et disent « On fait avancer nos troupes. » Ce qu'il s'agit, c'est que les représentants des différents groupements disent qu'eux, ils sont intéressés à s'engager dans un parti nouveau, complètement nouveau, à base démocratique, encore une fois, et qu'ils invitent leurs membres à prendre une carte de membre dans ce parti nouveau. Les membres ne suivront pas nécessairement, mais ce qui est certain, c'est que nous cherchons, vous et moi, je pense, à faire triompher la démocratie dans la province de Québec. Or, jusque maintenant, il n'y a pas un parti fort, existant, qui invite en grande majorité les démocrates. Tous les démocrates ne sont pas dans un seul parti ou même dans votre groupement. Ils sont dispersés. Il s'agit précisément pour ceux qui parlent au nom de ces groupements de dire, ben, on veut essayer de tous les réunir dans un même groupement. Et là, ce sera aux membres de suivre ou de ne pas suivre. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où les gens, les dirigeants de bonne volonté démocratique proposeraient une opération semblable, il n'existerait plus à l'extérieur de ce nouveau parti fusionné, il n'existerait plus que des dirigeants antidémocratiques. Et alors, les démocrates...
Oui, mais alors, à ce moment-là, non. Parce qu'à ce moment-là, il ne faudra pas oublier une chose. Il y avait déjà des partis politiques existants. L'Action civique s'est fondée. Le Rassemblement s'est fondé. Là, il s'agirait d'un autre parti qui s'appellerait l'Union démocratique. Et peu de temps après, un autre groupe de citoyens, non contents de certaines attitudes de ce groupement ou ne trouvant pas dans cette association ou ce parti... tout ce qu'ils croyaient pouvoir y trouver, vont peut-être bien fonder un autre parti. Cette formule d'une union ne met pas fin au débat et ne met pas fin à la division.
Monsieur Trudeau, dans les idées que vous avez exprimées dans votre manifeste et au cours des causeries que vous avez faites devant les étudiants de nos universités, est-ce que vous n'avez pas exposé cette possibilité que chaque parti garde son identité? En somme, qu'il n'opère pas de réforme de base et qu'on fasse un groupement de ces partis au moment d'une élection afin de pouvoir constituer des forces d'opposition sans programme commun.
C'est ce que j'appelais le pis-aller. Si cette fusion des éléments réformistes dans un parti nouveau ne se faisait pas, je disais qu'il faudrait encore considérer à la veille d'une élection, c'est une solution de dernière heure, il faudrait encore qu'à la veille d'une élection, les groupements d'opposition cherchent quelques formules d'entente électorale, de partage des comtés, en se basant sur un programme minimum, pour essayer de défaire ou d'affaiblir le parti au pouvoir. Autrement dit, pour que tous ces partis qui sont dans l'opposition actuellement deviennent une opposition réelle, parce que c'est beau de dire on va rester dans l'opposition 10 ans, 20 ans s'il le faut, mais encore faut-il en être. Et pour le moment, l'Action civique n'y est pas et le PSD n'y est pas effectivement non plus. Alors je dis à ces deux groupements-là, ils auraient avantage d'en être de l'opposition, mais encore une fois, c'est un pis-aller dans mon esprit.
C'est un pis-aller irréalisable, d'abord parce qu'encore une fois, il manque de réalisme. S'il y a partage de comté entre divers groupes, bien, aucun des groupes n'aura suffisamment de candidats pour donner l'assurance à ses électeurs que si tous ces candidats sont élus, il va former le gouvernement. Et l'électeur, quand il va voter, vote non seulement contre un parti, mais vote pour un gouvernement qu'il voudrait voir là. Et si on répète l'expérience stéveniste, on va avoir une campagne électorale superbe, magnifique. Mais les adversaires de cette entente vont dire « C'est bien beau, vous avez peut-être raison d'être contre le gouvernement, mais qu'est-ce que ça vous donne de voter pour tel candidat dans tel parti, dans tel comté? quand bien même que tous leurs candidats seraient élus, ils n'ont pas encore assez pour former le gouvernement. Vous n'aurez pas le gouvernement que vous voulez. Et c'est ce qui explique la défaite de Stevens en 35.
Mais il ne faut pas dire que c'est une formule irréalisable. Il y a eu une entente électorale précisément en 35, alors que l'Action libérale nationale a pris 27 sièges parce qu'il y avait eu une division des comtés.
Oui, mais l'alliance des deux n'a pas amené la défaite de M. Tachereau à ce coup-là, par exemple.
Non, mais ils ont mis au Parlement une troisième force qui est devenue la deuxième force. C'était grâce à une alliance électorale. Je ne trouve pas que c'est la meilleure formule, mais je trouve qu'il ne faut pas dire que c'était réalisable.
Qui dirait, par exemple, que si la lutte avait été à trois, que le parti de M. Tachereau n'aurait pas été battu du premier coup? Il ne faut pas oublier une chose, quand l'alliance de 35 s'est faite, le partage des comtés s'est fait, mais sur quelle base? Même le parti de M. Duplessis, chef du Parti conservateur, a reconnu que même si lui était chef de l'opposition officielle en chambre, dans l'opinion publique, il était relégué au troisième rang et il s'est contenté de 30 comtés à l'élection. Il en a laissé 60 à l'Action libérale nationale.
Justement.
Bon, ce qui prouve bien que l'Action libérale nationale, à ce moment-là, a sous-estimé ses forces. Elle a été prise de vertige. Et si elle avait continué de faire la lutte tout seule, elle aurait peut-être fait élire seulement 15. Mais ça aurait été 15 qui se seraient tenus.
Non. S'il y a eu une alliance à ce moment-là, c'est parce que les leaders de l'Action libérale nationale se rendaient compte que leurs troupes dans les différents comtés disaient, écoutez, entendez-vous, nous, dans une lutte à trois, on va se faire battre. De toute façon, on raisonne dans des plus que parfaits historiques. On ne sait pas, ni vous ni moi, ce qui sera arrivé. Mais simplement, on sait qu'une formule d'entente pour la première fois dans notre histoire, plus le cas de Mercier, a pu mettre une troisième force présente au Parlement.
Mais voici,
dans le
y a
cas
une
du bloc
expérience.
Où il n'y a pas eu d'alliance, le bloc avec ses 200 000 voix n'a élu que 4.
Le gouvernement Godbout était battu quand même.
Oui, mais c'est pas ça. Alors, qu'on veut obtenir, sauf erreur, parce que si votre raisonnement vaut, ça voudrait dire que actuellement, si votre troisième force ne fait pas alliance, M. Duplessis va être battu, mais pour mettre M. Lesage au pouvoir. Oui, c'est ce que vous ne voulez pas non plus.
Ben voici, je dis, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'abord de battre Duplessis. Parce que si ça doit amener simplement un autre gouvernement comme celui-là a remplacé un autre gouvernement qui lui ressemblait, ça ne vaut pas la peine. Alors, profitons de l'opinion populaire qui est anti-gouvernement, anti-Union nationale, pour lui donner la chance de se donner un autre parti. Si du premier coup, il ne prend pas le pouvoir, il fera certainement élire des députés. Mais je crois qu'étant donné, dans le moment, le fait que l'idée d'un troisième parti a fait son chemin depuis l'Action libérale nationale, ça fait 25 ans de ça, l'idée d'un troisième parti est beaucoup plus acceptée aujourd'hui dans notre peuple qu'elle l'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, un troisième parti, c'était quelque chose de révolutionnaire. Il n'y en avait jamais vu. Et aujourd'hui, bien, nos citoyens, nos concitoyens sont habitués à l'idée. Ils acceptent l'idée.
Monsieur Drapeau, vous raisonnez fort bien, mais le malheur, c'est que les dirigeants du Parti libéral raisonnent de la même manière et que les dirigeants du PSD raisonnent de la même manière. Ils disent un troisième parti ou un parti nouveau va renverser monsieur Duplessis. Et chacun dit, venez chez moi. Je répète ce que j'ai dit au début. Le malheur, c'est que vous n'admettez pas la donnée de la situation politique actuelle. Vous dites, tout le monde devrait me suivre, tout le monde devrait croire que mon raisonnement est juste.
Monsieur, je dois vous interrompre.
Il faut d'abord rentrer dans un mouvement d'éducation, puis ensuite, ce mouvement-là pourra devenir un parti à la demande populaire.
Je dois vous interrompre, messieurs, je vous remercie.
Messieurs Jean Drapeau, Pierre-Elliott Trudeau et notre animateur Raymond Laplante, on parlait ce soir de l'Alliance des forces démocratiques. Le sujet à discuter la semaine prochaine, les octrois fédéraux aux universités. Réalisation technique, Claude Godin. Cette émission est réalisée à la télévision par Jean Pellerin et à la radio par Laurent Hardy.